magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine des Nations Unies. Nous commencerons cette émission avec la Journée internationale de la femme. C'est aujourd'hui 8 mars. Cette année, la journée est placée sous le thème « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité ». En RDC, le PNUD tient à accompagner la femme dans le processus électoral 2015-2016 pour sa pleine participation. De leur côté, l'UNICEF et l'Union européenne appuient tout un programme du gouvernement sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous parlerons aussi de l'assistance de Caritas Congo qui a touché plus de 5 millions de personnes en 2014 dans les domaines des urgences, de la santé et des infrastructures en RDC. C'est ce qui ressort de la présentation la semaine dernière de la revue annuelle de cette structure humanitaire. Son secrétaire exécutif est notre invité. Il expliquera le contenu de cette revue ainsi que les défis que son organisation entend relever en 2015. Nous évoquerons enfin le développement agricole. Le programme Harvest Plus se range dans la bataille contre la malnutrition, la faim et la pauvreté en RDC. Il veut vulgariser et étendre la biofortification du manioc jaune. Ce programme a organisé jeudi dernier un atelier à l'intention des professionnels des médias. Objectif, les impliquer dans le plaidoyer en faveur de cette culture riche en vitamine A. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et à toutes et bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent. Des actions concrètes devront être envisagées pour préparer la femme congolaise aux futures échéances électorales, aussi bien comme électrice que comme candidate potentielle. C'est le vœu émis par la ministre du Genre, Famille et Enfants lors du Forum national sur le leadership politique féminin organisé les 3 et 4 mars dernier à Kinshasa. Un forum organisé avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Pour Madame Bijoukat, aujourd'hui, l'accès aux institutions de décision passe d'abord par les élections. Les propos de la ministre du Genre, Famille et Enfants recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Très souvent, on se plaint que la femme congolaise est sous-représentée dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, l'accès à ces instances ne se fait plus par nomination. Il se fait d'abord par voie électorale. La nomination ne venant que confirmer ce que le souverain primaire aura décidé. C'est maintenant le peuple qui élit ses dirigeants et investit ces derniers de son pouvoir pour le gouverner. Il faut donc que nous puissions préparer la femme congolaise à prendre une part active au processus électoral. Ceci, j'ai bien compris, l'objectif ultime qui est assigné à ce forum. Et je voudrais vous rassurer que je partage entièrement la pertinence de cet objectif.
Selon le PNUD, actuellement en RDC, les femmes élues au Parlement représentent environ 8% de l'effectif de la Chambre basse et 5% de celui de la Chambre haute. Développement maintenant, le programme de reconstruction et de stabilisation des zones sortant des conflits armés, STAREC, ainsi que l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO ont co-organisé du 3 au 5 mars dernier un atelier de portée nationale. Cet atelier vient clôturer la série de 3 ateliers provinciaux qui ont enrichi les stratégies de stabilisation dans les 2 Kivu et la province orientale. Richard Lebailly de la Falaise, chef de l'unité de stabilisation de la MONUSCO, revient ici sur l'importance de cet atelier et les projets en cours de réalisation dans l'est du pays. Ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Le budget total de la première phase de l'IK13 2008 à 2012 était de 367 millions pour 69 projets, principalement dans la restauration de l'État. Cela veut dire construction de routes, garnisons militaires, commissariats de police, bâtiments administratifs. Vous avez toujours les projets première phase IK13 qui sont certains qui sont en cours, donc pas terminés. Donc vous avez un volume de 59 millions de dollars, dont 24 millions qui ont été générés pendant l'année 2014. Si on prend les 2 principaux, à peu près à hauteur presque de 5 millions de dollars sur Mambasa et Kalehe, vous avez donc là 8 millions.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans le cadre du mois de la femme, le gouvernement congolais met en œuvre une initiative, mieux un programme de lutte contre les violences liées au genre. L'UNICEF et l'Union européenne accompagnent ce projet lancé en avril de l'année dernière. Jean-Pierre Lally Coco s'entretient avec Yves Wilmot, chargé de communication à l'UNICEF, et Madame Carmen Garcia, chargée de programme genre à la représentation de l'Union européenne. Ils parlent de l'intérêt et les axes de ce programme. Suivez.
Yves Wilmot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Madame Carmen Garcia.
Bonjour.
Nous allons nous entretenir avec vous autour de la Journée internationale de la femme. Et on sait que le gouvernement, à ce sujet, a initié un programme. Madame Carmen, qu'est-ce qui sous-tend l'initiative prise par le gouvernement sur les violences basées sur le genre? Pourquoi l'Union européenne doit appuyer ça?
En fait, bon, la volonté politique de l'Union européenne de protéger et de promouvoir les droits de la femme existe depuis des décennies, autant au niveau interne de l'Union européenne qu'au niveau international. Et une fois le constat a été fait que cette problématique existait en RDC, on a voulu mettre en place et contribuer à dépasser les débats, les interventions au niveau des violences sexuelles, tout en s'attaquant et définissant des programmes qui concevaient les violences sexuelles en tant qu'une partie des violences basées sur les genres, qui dépassent bien les violences sexuelles en tant que telles et qui ont comme objectif général et final l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on a bien voulu intégrer les débats et l'intervention dans un sens beaucoup plus holistique et compréhensif.
Yves, le programme Femmes et Hommes Progressons Ensemble est une initiative du gouvernement, on vient de le dire. Il a été lancé en avril de l'année dernière. Ce mois de mars est consacré, bien entendu, à la femme. Parlez-nous, Yves, brièvement de ces programmes dans le cadre de la Journée internationale de la femme exactement.
Et donc en effet, Hommes-Femmes Progressons Ensemble est un programme qui a été lancé par le gouvernement de la République démocratique du Congo en avril 2014, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne, avec l'UNICEF, avec la FAO et avec la coopération allemande. C'est un programme qui a pour but de mettre fin à toute forme de violence liée au genre, en s'attaquant aux causes profondes de ces violences. Et c'est un programme qui est en fait est composé de quatre types d'interventions, de quatre composantes. La première composante touche à tout ce qui est la question des normes sociales au niveau de la société congolaise, en vue d'avoir à ce niveau-là une promotion d'une relation qui soit plus égalitaire, plus respectueuse entre les hommes et les femmes. La deuxième composante parle de la répartition du pouvoir économique entre les hommes et les femmes. La troisième composante est une composante d'appui au niveau des acteurs dans la société civile ainsi qu'au niveau gouvernemental. Et puis la quatrième composante est une composante spécifiquement axée sur l'appui à apporter au niveau des services de sécurité ainsi qu'au niveau des institutions judiciaires pour promouvoir, pour renforcer un cadre protecteur vis-à-vis de personnes, hommes et femmes, victimes de violences liées au genre.
Madame Carmen, de nombreuses initiatives existent dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la discrimination de la femme. Qu'apportent alors ces nouveaux programmes de plus dans ces domaines? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de supplémentaire que vous apportez à ces programmes?
En fait, je crois que la beauté ou la nouveauté de ces programmes, c'est son accent sur la prévention. On veut bien réduire les victimes de ces violences en s'attaquant aux racines des problèmes. Donc pourquoi ces violences ont lieu? Et donc, mon collègue Yves vient de le mentionner tout à l'heure, les premières composantes s'agissent de changements de comportement, de mentalité et d'attitude, et ce sont des activités qui sont mises en place au niveau de communautés, justement pour aller envers une société, une cohabitation beaucoup plus harmonieuse entre les hommes et les femmes.
Et vous avez parlé tout à l'heure que pour la plupart, les causes, c'est les pratiques traditionnelles, ici chez nous en Afrique. Et comment s'y prendre pour agir sur ces pratiques, parce que ces pratiques sont très récurrentes et devenues comme une habitude chez nous.
C'est vrai qu'elles sont récurrentes et c'est habituel. De toute façon, il y a quand même des pratiques qui sont différentes par communauté. Justement, ça sort de là, cette approche communautaire du programme. Et à travers les premières composantes, on fait un effort, on met vraiment l'accent sur l'éducation et les écoles, donc en éduquant les enfants et les professeurs. Et on travaille ensemble avec les leaders, les acteurs principaux de communauté. Justement, gouvernement pour que ces pratiques traditionnelles soient comprises et corrigées à partir de la base.
Donc vous allez vous baser sur les communautés, sur les leaders sociaux pour essayer de remédier à cette situation, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Voilà, et maintenant, c'est par de la ville de Kinshasa, la province de Bandundu et la province du Maniema ont été choisis pour expérimenter ces programmes. Pourquoi le choix de ces trois provinces et pas les autres?
C'est la volonté, puisqu'on parle de quelque chose de fondamental au niveau de normes sociales, au niveau de pratiques traditionnelles. C'est la volonté de pouvoir ou de vouloir tester l'efficacité de l'intervention dans un contexte d'une part urbain et périurbain, quand on parle de la province de Kinshasa, et d'autre part dans un contexte plus rural quand on parle du Bandundu et du Maniema.
Oui, mais je comprends que vous fassiez ces choix. Le problème des violences basées sur le genre se pose aussi avec beaucoup plus d'acuité à l'est du pays, notamment dans les deux Kivu. Pourquoi vous n'avez pas pensé d'abord à ces provinces-là? Est-ce que votre explication est convaincante?
Mais pour deux raisons. Tout d'abord, c'est fautif de dire que la problématique de la violence liée au genre est une problématique qui ne touche que l'est du pays. C'est réduire toute la problématique de la violence liée au genre à une problématique de violence sexuelle, ce qui n'est pas correct et en lien, en phase avec la réalité du pays. Donc ça, c'est une première remarque à faire dans ce contexte-là. Et la deuxième remarque, comme je disais, il y a déjà assez bien d'initiatives qui sont prises dans l'Est pour la prise en charge de victimes d'abus sexuels. Par contre, il y a très très peu d'initiatives jusqu'à présent qui sont mises en œuvre en dehors de l'Est et qui touchent non seulement la problématique des abus sexuels, mais d'une manière plus fondamentale, touchent les violences ou essaient d'apporter une réponse aux violences liées au genre et qui sont, elles, à la base de toute forme de violence.
On sait que l'Union européenne et puis l'UNICEF sont impliqués dans ce programme. Et je voudrais avoir une idée sur cette implication dans l'assistance aux victimes et la formation du personnel.
Donc l'Union européenne est le bailleur principal de cette initiative et est à l'origine un peu de la définition de l'approche, tandis que l'UNICEF, tout en cofinançant le programme, est en charge de sa mise en œuvre plutôt au niveau technique. Par exemple, quand on parle de prévention, on peut mentionner la prochaine campagne du gouvernement contre les mariages des enfants, les mariages des mineurs, où à travers notre programme, l'UNICEF et l'Union européenne vont appuyer les gouvernements au niveau technique, mais aussi au niveau de plaidoyer politique. Ça, c'est bien un exemple. Et par rapport, par exemple, à la formation du personnel, il s'agit de la formation du personnel, oui, du ministère du genre, de la famille et de l'enfant, particulièrement, mais aussi des organisations de la société civile qui sont impliquées dans la lutte justement contre les violences basées sur les genres. Le ministère est en train de mettre en place une feuille de route sur une réorganisation et renforcement de ses capacités sur base de formation, mais d'autres activités pour renforcer le ministère, notamment dans son rôle de coordination de la lutte contre les violences liées au genre.
Oui, justement, vous parlez de la coordination. Comment les choses vont se faire de ce côté-là? La coordination et la gestion même de ce programme, Yves?
Mais tout d'abord, il y a un comité de pilotage qui est présidé par le gouvernement, plus particulièrement par le ministère du genre, et puis un comité technique dans lequel siège les mêmes entités, mais qui, au niveau national d'une part, au niveau provincial d'autre part, suit la mise en œuvre d'une manière purement technique, et puis il y a les unités de mise en œuvre du programme en tant que tel, plus particulièrement avec l'apport de l'UNICEF, du FAO et de la coopération allemande.
Et pour terminer, Madame Carmen, pas d'argent, pas de programme. Et alors, qui finance finalement ce programme?
Oui, donc en fait, l'Union européenne, comme je disais tout à l'heure, est le principal bailleur de cette initiative. Nous contribuons à l'auteur de 20 millions d'euros. L'UNICEF n'appuie pas seulement techniquement le programme, mais aussi les cofinance avec 5 millions d'euros. Et la coopération allemande ajoute aussi accessoirement de fonds sur ce programme. Donc la totalité de ce programme, le montant de ce programme, c'est de 25 millions et demi d'euros.
Et tous les deux, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
En bref, Dans cette émission, des réparations collectives seront octroyées aux victimes dans l'affaire Thomas Lubanga. Une grande première dans l'histoire de la CPI, dans un arrêt rendu le 3 mars dernier, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a chargé le fonds au profit des victimes de présenter un plan de mise en œuvre de réparation collective. Ce plan devra inclure une estimation du montant nécessaire à la réparation du préjudice causé par les crimes dont Thomas Lubanga a été reconnu coupable. 8 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale de la femme. En ce moment même, environ 3000 femmes devraient prendre part à la 4e édition du Marathon des femmes organisé à Kinshasa par l'ONG Freebox Initiative avec l'appui de la MONUSCO. Ce marathon est placé sous le thème « Éducation pour le bien-être familial ». Il a pour objectif de sensibiliser la femme à pratiquer une activité physique pour son bien-être mental et physique. L'itinéraire part du boulevard Triomphal jusqu'au parking de l'hôtel de ville. Et le marathon devrait se terminer par un concours à la suite duquel des prix seront remis aux gagnants.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'assistance de Caritas Congo a touché plus de 5 millions de personnes en 2014 en République démocratique du Congo. Ceci dans les domaines d'intervention que sont les urgences, la promotion de la santé, les infrastructures et le développement durable. Dans un entretien accordé à Radio Okapi après la présentation de la revue annuelle des activités de Caritas Congo, Dr Bruno Miteyo, secrétaire exécutif de Caritas Congo, parle du contenu de cette revue annuelle ainsi que des défis que son organisation ont relevé en 2015. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Docteur Bruno Miteyo, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister il y a quelques jours à la présentation de la revue annuelle des activités de votre structure en 2014. Globalement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette revue annuelle?
Ce qu'il faut pouvoir essentiellement retenir, c'est que Caritas Congo est un réseau national qui comprend 47 bureaux diocésains. Et ces 47 bureaux sont disséminés sur l'ensemble du territoire national. Et selon le format de sa structure nationale, avec un département qui s'occupe des urgences, d'une part, un département qui s'occupe des questions de la santé, et un dernier qui s'occupe des questions de développement durable. Ainsi donc, le rapport annuel 2014 qui a été présenté aux partenaires et aux médias n'a pu concerner que des interventions de la coordination nationale, ça veut dire du secrétariat exécutif qui a pu, durant 2014, accompagner pratiquement une vingtaine de nos bureaux au lieu de 47 en totalité. Alors ces interventions que le secrétariat exécutif a accompagnées ont touché essentiellement la promotion tant de la solidarité que de partage, la promotion de santé et aussi le développement durable. Caritas Congo, pour ce faire, a pu mobiliser en 2014 178 millions de dollars américains, essentiellement pour appuyer les activités qui sont destinées à changer de manière tout à fait positive la vie de 5 millions de personnes, y compris bien entendu la paie des enseignants.
Oui, docteur, vous venez tout de suite là de parler de vos axes d'intervention, c'est-à-dire les urgences, la réhabilitation des infrastructures sociales de base et la santé, vous l'avez dit, et le développement durable sans doute. Alors prenons le cas des urgences. Avec les phénomènes déplacés internes estimés aujourd'hui à 2,7 millions de retournés, surtout dans l'est du pays, quelle a été la contribution de Caritas pour soulager tant soit peu la souffrance de ses compatriotes?
Oui, il faut avouer que nous sommes quand même un pays qui a beaucoup souffert, essentiellement dans sa partie est du pays, où des milliers, des millions, comme venait de le dire, de nos compatriotes ont été obligés de quitter leur milieu de vie et de vaquer en dehors de leur endroit habituel de vie. Alors, comme Caritas Congo, dans sa vocation d'assistance humanitaire, nous avons pu essentiellement aller dans un certain nombre d'axes. Il s'agit nécessairement de l'assistance alimentaire.
Aussi le plan de la santé. Des efforts ont été menés, ils ont été notables dans la lutte contre les maladies dites de la pauvreté, la tuberculose, le paludisme. Mais quel a été votre apport dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola?
Bon, il faut bien rappeler que La Caritas Congo s'est investie réellement dans la lutte contre les maladies dites de pauvreté qu'on venait de l'étendre. S'agissant de la lutte contre les virus, Caritas Congo est intervenue sur le plan hygiénique, sur le plan de la sensibilisation des populations autour et dans les zones qui ont été affectées au niveau de la province de l'Équateur.
À Boende notamment.
À Boende, Bukungu Ikela, Mbandaka même, qui est un centre assez important, et pourquoi pas ici à Kinshasa, où nous avons essayé d'éduquer la population à garder des mesures d'hygiène.
Voilà, et vous avez dit tout à l'heure, docteur, que votre action a touché plus de 5 millions de personnes en 2014. Estimez-vous que ce chiffre est vraiment suffisant par rapport aux moyens mobilisés? Vous avez parlé également des 178 millions de dollars américains. Est-ce que c'est vraiment suffisant?
Il faut dire qu'il est vrai que nos actions ont permis de secourir plus de 5 millions de personnes dans les différents domaines à travers des projets de santé, de développement et des urgences. Et cela signifie que le nombre de personnes assistées pouvait bien être dépassé au vu réel de besoins sur le terrain. Et nous ne pouvons pas dire que l'enveloppe de plus de 170 millions n'est pas une enveloppe suffisante. J'en profite pour remercier tous les bailleurs de fonds, y compris essentiellement le gouvernement congolais. Il faut aussi féliciter les populations bénéficiaires qui n'ont pas reçu ça de manière tout à fait passive, mais qui ont été éduquées dans cette assistance. Et nous pensons que cela pourrait aider les uns et les autres à s'éprémunir, à être proactif par rapport au mal qui peut arriver dans l'avenir.
Avant-dernière question, dans votre message, vous écriviez « Malgré les efforts réalisés en 2014, la Caritas doit reconnaître qu'il n'a pas totalement satisfait les immenses besoins de la population ». Alors, cela suppose que vous avez trouvé quelques difficultés. Est-ce que nous pouvons en savoir plus?
Les difficultés dans tout travail ne manquent pas. Je pense notamment à l'accès aux soins de santé, au logement, l'accès à l'éducation et à des moyens de communication, etc. Nous demeurons quand même une organisation qui a des limites. Ça, c'est clair que nous ne pouvons pas du tout remplacer tout le monde dans le travail que nous faisons. Nous ne pouvons pas remplacer l'État congolais qui est le premier responsable de tout cela. Il faut aussi souligner que, par exemple, dans les domaines humanitaires, les crises que nous connaissons à l'est du pays, eh bien, ça, ce sont des crises qui ont été médiatisées. Mais il existe des crises qui sont oubliées. Par exemple, dans la province de l'Équateur, dans la province de Maniema, un peu partout au pays, il y a des crises qui ont été oubliées. Et malheureusement, nous sommes au courant, mais les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas d'aller là partout. Une autre difficulté, pas du tout la moindre, c'est cette concurrence déloyale devant les ressources de travail.
C'est-à-dire, expliquer?
Je voudrais dire une certaine compétitivité négative, la compétition elle est bonne, où la plupart des organisations, je voulais dire nationales, n'arrivent pas à accéder à des ressources de travail. Et là, nous sommes tous en train de lutter pour que nous puissions être mis sur les mêmes conditions. Par exemple, nous faisons des soumissions pour un projet précis, aussi bien les organisations locales et nationales que les organisations étrangères, internationales, dites internationales. Mais au moment où il faut accéder, on demande aux organisations nationales une garantie bancaire. Vous devez déposer 10%.
Là, c'est vis-à-vis des partenaires étrangers.
Vis-à-vis des bailleurs de fonds
internationaux,
oui. Et cela, ça limite quand même un peu les élans et les efforts et la volonté des organisations locales, nationales à pouvoir intervenir.
Et je voudrais avoir un mot sur les perspectives 2015. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Ce qu'il faut dire, c'est que les perspectives visent réellement à l'amélioration de la qualité de nos interventions pour l'exercice 2015. J'entends par là, Caritas Congo doit rester redevable vis-à-vis des bailleurs, mais aussi vis-à-vis des bénéficiaires. Rendre compte, expliquer comment les ressources que nous avons pu obtenir ont été utilisées au profit des bénéficiaires. Et les bénéficiaires aussi doivent savoir comment nous avons reçu les ressources des bailleurs et comment nous les avons utilisées à leur compte. C'est là, c'est un point extrêmement important. Ça va nous permettre, lors de la prochaine revue annuelle de 2015, d'écouter d'une part les bailleurs de fonds et d'autre part le bénéficiaire. Et cela va nous permettre toujours d'améliorer nos interventions, que ce soit sur le plan de la qualité ou sur le plan de la quantité, bien entendu, dans les trois domaines traditionnels que j'ai évoqués, à savoir les urgences majeures, la promotion de la santé et l'autopromotion.
Et docteur Bruno Mitteo, Radio Capi vous remercie de votre disponibilité.
Ce dimanche, nous resterons à Kinshasa pour notre nouvelle de province. Nous évoquerons donc l'atelier organisé jeudi dernier par le programme Harvest Plus sur l'appropriation de ses activités par les professionnels des médias. Cet atelier, qui a regroupé près d'une cinquantaine de journalistes, s'est focalisé sur la biofortification du manioc jaune riche en vitamine A. Pourquoi est-il important d'associer les journalistes à cette initiative? Écoutez la réponse de Sylvain Badiaka, manager de Harvest Plus en RDC. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Cette variété de manioc jaune, en plus de l'énergie, contient une bonne teneur en provitamine A, les précurseurs de la vitamine A qui est indispensable pour l'organisme, etc. Cependant, encourager les agriculteurs, les plantes vivrières en général et le manioc jaune riche en provitamine A en particulier ne garantit pas que la population va en consommer. L'éducation, les initiatives qui favorisent des changements de comportement alimentaire et la sensibilisation aux problèmes de santé publique sont des aspects essentiels pour que la consommation des cultures biofortifiées riches soit effective. Ces changements de mentalité à travers l'information, la sensibilisation et la conscientisation est possible avec vous, les professionnels des médias qui faites partie d'une couche importante des acteurs de développement et arriver à atteindre un public plus large à travers les voies des ondes et de vos écrits.
Magazine des Nations Unies, de Science aux Nations Unies.
La question de ce dimanche concerne la traque des groupes armés nationaux qui écument encore l'est du pays, notamment ceux des chefs miliciens Janvier et Tcheka. Elle est posée par un confrère de Goma et c'est le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, qui y répond.
Oui, c'est Olivier Baraka pour le compte de Michapi Voice TV. Est-ce que aujourd'hui la MONUSCO peut nous renseigner quant à la localisation de Janvier, Karaïri et Tcheka? Est-ce que leur traque constitue une priorité pour la MONUSCO, car on en parle de moins en moins?
Tout groupe armé illégal sur le territoire congolais constitue une priorité pour la force de la MONUSCO, car n'oubliez pas que ce groupe armé constitue une menace contre les populations civiles et la protection de ces mêmes populations civiles constitue le fondement, le socle de notre mandat. Aussi bien Janvier Kariri que Tcheka constituent toujours des menaces qui sont prises très au sérieux. Je voudrais juste vous rappeler que des actions significatives avaient été menées contre Tcheka, ce qui nous a permis de le dégager de l'axe de Pinga, mais aussi de l'axe Kacheberi-Mpofi. Et quant à Janvier Kariri, rappelez-vous que nous l'avons dégagé du Mont Sinaï et que nous avons capturé Lukweti en le dégageant de toute cette zone-là où il opérait en roue libre. Le bataillon sud-africain et les FRDC qui sont déployés dans le territoire de Walikale et un peu le Lubero et le Masisi prennent bien en compte la menace de Tcheka.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je réponds au nom d'André Kitenge Lunguma, Wanakiabou Makamba. André, c'est mon prénom et nom de baptême. Je suis issu d'une famille de 11 enfants, dont je suis le cinquième. Ma situation matrimoniale, je suis marié et père d'une fille que j'aime bien. En ce qui concerne mon cursus scolaire, j'ai tout d'abord commencé par fréquenter l'école maternelle et cela pendant 3 ans dans une école de la Jekamina Likasi au Katanga où je suis né. Ensuite, je suis allé à l'école primaire Tujenge, toujours de la Jekamina Likasi, où j'ai terminé avec succès mes 6 ans d'études primaires. Après les études primaires, mon père voulait m'envoyer dans une école technique de la Gécamine à l'Institut Mutoshi de Kolwezi, mais je me suis opposé car je voulais bien faire les techniques sociales. Et suite à mon opposition, mon père m'a inscrit dans une école des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, l'Institut Toutazami aujourd'hui, qu'on appelait avant Sacré-Cœur, pour faire mon cycle d'orientation. Ma première année n'a pas été prometteuse. J'ai quitté pour aller à l'Institut Mapinduzi de Likasi où j'ai fait mon cycle d'orientation de 2 ans. Puis je me suis inscrit à l'Institut Moulima dans la section technique sociale où j'ai décroché mon diplôme d'état avec 64%. Après avoir décroché mon diplôme d'état, je me suis préparé à embrasser les études universitaires. Mon premier choix m'oriente à l'Institut supérieur d'études sociales, ISES, à l'époque, pour la simple raison que j'ai fait les humanités techniques sociales. Faute de place, j'ai pris la décision de me rendre à l'université de Kisangani pour poursuivre mes études supérieures. Sur place, j'ai changé d'avis et je me suis inscrit en sciences de l'éducation, dont la pédagogie à l'université. J'ai obtenu ma licence en pédagogie, option administration et inspection scolaire avec la mention distinction en 7 ans au lieu de 5 ans, avec des critères de délibération très rigides à l'époque, à défaut avec les effets d'entraînement, d'autres cours où on se retrouvait parfois être à journée totale avec tous les cours ou à journée partielle. Arrivé en 2002, après 7 ans d'expérience dans le domaine de la radio, je postule comme journaliste à la radio Okapi. Après un test écrit et oral, je suis retenu comme journaliste à Radio Okapi de la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, jusqu'à ce jour. Donc, je suis un des pionniers de cette radio de la paix. Pour l'instant, je suis journaliste reporter. Chaque matin, je suis à mon poste de travail, je participe au conseil de rédaction en proposant des sujets d'information, de reportage et des magazines. Après échange et discussion avec les collègues de service, le secrétaire de rédaction attribue les tâches à chacun de nous et nous nous lançons tout de suite sur le terrain pour la collecte des informations à traiter et à diffuser localement et sur l'antenne nationale en priorité. Je fais également la traduction des nouvelles en swahili. Avant cela, après mes études universitaires, comme j'aimais la radio, j'ai été recruté en 1995 à la radio-télévision Amani, RTA, de l'archidiocèse de Kisangani pour animer des émissions sportives. 2 ans après, sur décision de l'abbé directeur de la radio, je suis dirigé à la rédaction des journaux parlés et je deviens présentateur des journaux et journaliste reporter après plusieurs formations organisées par la Radio Vatican et d'autres professionnels des médias. Quelques temps après, je suis nommé rédacteur en chef. Et cette fonction n'a duré qu'une année car j'étais appelé à travailler ailleurs, à l'occurrence à la radio Okapi. Préférence, c'est tout d'abord le sport, notamment le basketball, suivi de la musique. Et pour cette dernière, j'aime plus la musique de King Kester Emenea, paix à son âme. Surtout, j'aimais la chanson Willow Mundo. Et j'aime également les films de guerre, d'horreur. Ça peut vous surprendre, mais c'est comme ça. Et pour mon plat préféré, en tout cas, c'est le foufou, le kakontwe, à la viande, au poisson, accompagné des feuilles de manioc ou rien en tout cas. Enfin, pour mon projet d'avenir, c'est de faire la carrière scientifique, mais aussi créer ma propre radio pour informer la population en toute objectivité à la manière de Radio Okapi. Voilà un peu mon projet d'avenir.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Au moins 3 grandes dates à retenir la semaine qui commence sur le calendrier des Nations Unies. Le 12 mars, la journée mondiale contre la censure sur Internet. Le 15 mars, ce sera la journée internationale des droits des consommateurs. Et toujours le 15 mars, la journée internationale de lutte contre les violences policières. Et c'est par là que nous bouclons cette émission présentée par Lydie Bettina sous la supervision de Ben Kabamba et la coordination de Jean-Pierre Elali et Coco. Honoré Missenga était au reportage et Guy Manzangou à la mise en onde. L'émission est à réécouter sur www.radioocapi.net. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain.